Bonjour François.
Bonjour Clotilde.
François de Beaulieu qui est là encore une fois aujourd'hui en ce lundi matin avec cette chronique, ma foi, qui fait beaucoup de bruit sur Facebook. Vous avez de plus en plus d'amis, François, et je le précise, je le dis parce que ça me fait extrêmement plaisir, parce que des chroniques comme les vôtres, elles sont essentielles, d'autant plus qu'elles sont rares. Alors je vous laisse nous présenter la chronique du jour dans le cadre de « Vous allez tout nous rappeler ça ».
Eh bien, tout d'abord, merci à nouveau de m'accueillir. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et au risque de vous surprendre ce matin, ce n'est pas d'un sujet intéressant que je voudrais vous parler, mais plutôt d'un sujet grave. Il s'agit en fait de la situation en Syrie et de ce qui est aujourd'hui donc certainement la plus grande crise humanitaire depuis la Deuxième Guerre mondiale. Des millions de personnes sont déplacées depuis ces cinq dernières années. Et bien sûr, il n'y a pas d'échelle dans la souffrance, dans la détresse, dans l'injustice. On évoque néanmoins souvent les plus vulnérables, les femmes, les enfants, les personnes âgées. Mais ce matin, j'ai une pensée toute particulière et j'aimerais ajouter à cette liste toutes celles et tous ceux qui ont un handicap. Car évidemment, dans des situations de détresse semblables, ils sont souvent les premiers laissés pour compte. Alors me direz-vous, il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde, nous a habitués aux bonnes nouvelles. Eh bien, c'est aussi dans des situations d'extrême détresse comme celle-ci que l'on trouve des initiatives qui encouragent, qui inspirent. Et c'est le cas ce matin, avec en toile de fond donc cette crise humanitaire en Syrie. Il se passe quelque chose d'extraordinaire dans le monde. Je vous propose de partager le cri d'un homme. Il s'est levé la semaine dernière. Et dans une lettre ouverte publiée dans le quotidien français Le Monde, il nous interpelle, il interpelle les dirigeants européens en particulier. Cet homme a consacré une trentaine d'années de sa vie à la protection de l'environnement et donc de notre planète. Il ne pouvait plus se taire plus longtemps, son nom, Nicolas Hulot. Alors découvrons ensemble cette lettre ouverte, c'est une initiative courageuse qui va nous faire découvrir aussi d'autres initiatives citoyennes qui font une différence dans cette crise. Nous allons les appeler les héros invisibles. Ainsi donc, 50 conflits en Syrie se traduisent aujourd'hui par 5 millions de réfugiés dans les pays voisins, 7 millions de personnes déplacées à l'intérieur même de la Syrie, 1 million de personnes ont traversé l'Europe. Et cela s'ajoute à l'inexorable exode des damnés de la Terre qui fuient l'Afrique, ces conflits et la désertification. Alors derrière les chiffres qui effraient et qui effacent les hommes et leurs souffrances, peut-on mettre des visages et des histoires? Peut-on surtout réaliser que cela pourrait être chacun d'entre nous si le hasard de la loterie génétique et géographique ne nous avait pas fait naître du bon côté de la barrière? Le pire n'est pas dans l'incapacité de l'Europe à faire face à cette tragédie ordinaire, mais dans l'absence de l'expression d'une simple volonté. Pas la moindre organisation humanitaire digne de ce nom face à des horreurs annoncées et si prévisibles. L'Europe démontre, si besoin était, sa faiblesse politique et le peu de cas que nous faisons de nos valeurs. Et je le précise, donc cet article est signé par Nicolas Hulot, je poursuis. La France, jadis patrie des droits de l'homme, n'est-elle devenue que le pays de la déclaration des droits de l'homme? Est-ce la peur légitime du terrorisme que nous reportons abusivement sur ce phénomène? Sommes-nous prisonniers de nos amalgames? La classe politique tout entière s'est peu exprimée sur le sort de ces familles. Il n'a été question que de tri entre les migrants économiques et les réfugiés. Alors sommes-nous si peu à être troublés par l'accord conclu entre l'Europe et le président turc pour refouler les nouveaux arrivants en Grèce vers la Turquie qui héberge déjà plus de 2 millions de réfugiés? Est-ce démagogique de noter que le Liban abrite à lui seul l'équivalent d'un quart de sa population, c'est-à-dire 1,5 million de réfugiés, et que l'Europe, avec un demi-milliard d'habitants, échoue et renâcle à en accueillir quelques dizaines de milliers. L'histoire témoigne de situations où l'Europe et la France en particulier ont su gérer l'accueil de déplacés très nombreux sans provoquer de chaos. Je pense, nous dit-il, je pense notamment aux conséquences de la guerre au Vietnam. En 1979, au moment de la crise des Boat People, nous avons accueilli, nous rappelle-t-il, 150 000 personnes. Ou même au moment de l'indépendance algérienne. Et alors aujourd'hui, nous mégotons sur des quotas sordides. La France peine à proposer d'accueillir 30 000 réfugiés dans les deux années qui viennent. Toutes les barrières du monde ne pourront endiguer cette vague de détresse. Il en est du désespoir comme de l'eau. Rien ne l'arrête. Elle finit toujours par trouver son chemin. L'histoire n'est jamais amnésique. Elle mettra en relief où nous aurons mené cette lâcheté collective et nos petits reniements. Nul doute qu'elle nourrira à brève échéance la haine de demain à notre égard. Mettons-nous une seconde dans la peau de ces pauvres damnés qui ont fui la barbarie et la mort, ont rejoint l'Europe ou ses frontières au terme d'une odyssée inhumaine pour échouer ici ou là dans un nouvel enfer, parqués comme des pestiférés. Alors, ajoute-t-il, j'ai conscience qu'on ne répond pas aux crises avec de bons sentiments. Plus encore, j'ai conscience de l'extrême complexité, de la gravité de la situation et même d'être incapable moi-même d'esquisser un scénario de résolution. Mais peut-on distinguer dans cet entrelac ce qui procède du traitement au long terme, notamment la fin du conflit syrien, la misère en Afrique, de l'urgence humanitaire pure et s'y concentrer prioritairement? Eh bien, c'est ce qu'a fait Damien Carême, le maire de Grande-Synthe, une petite ville de France, et sur sa seule volonté et contre l'avis de l'État français, avec l'aide de Médecins sans frontières, il a transformé un cloaque en camp digne de ce nom. Et n'est-ce pas là un exemple qui pourrait être reproduit? Eh bien, c'est ce qu'a décidé aussi la commune de Cancale, dans le département de l'Ille-et-Vilaine, toujours en France, donc, en mettant à disposition un hôpital désaffecté pour des dizaines de familles. Et cela pourrait être une initiative qui pourrait inspirer un plan national, n'est-ce pas? Et au passage, soulignons que dans ces deux cas, tout s'est fait avec le soutien de la population et sans le moindre incident. Alors tout cela pour dire qu'heureusement, dans l'ombre et sans soif de reconnaissance, il y a une belle citoyenneté qui agit. Des héros invisibles. Oui, il y a de nombreux exemples où l'on résiste à la résignation, des exemples qui doivent inspirer une mobilisation et un plan d'action. Et dans le même esprit, notons la magnifique initiative civile et européenne de l'ONG SOS Méditerranée. Associée à Médecins du Monde, avec son bateau Aquarius, elle est la seule à assurer une veille permanente en haute mer, donc dans la mer Méditerranée, pour secourir les naufragés. C'est en fait une honte pour l'Europe. Comment 28 États n'ont-ils pas été capables de réunir une flotte humanitaire pour sauver des vies que l'on sait à l'avance en péril? On peut et on doit encore le faire. De même, il faut aussi un appui beaucoup plus massif aux pays voisins de la Syrie pour les aider à faire face à l'afflux. Tout cela n'exonère pas la maîtrise des frontières et la lutte contre les passeurs. Mais surtout, ne peut-on pas organiser une coordination État, région, territoire et commune pour évaluer les capacités de chacun à se partager l'accueil? J'entends, dit-il, et nous bouclons donc cet article de Nicolas Hulot, j'entends, dit-il, déjà la remarque sur nos sans-abri, qui ne sont pas mieux lotis. Mais nous devons avoir un sursaut de conscience pour eux aussi, nous dit-il. Où sont les Aron et Sartre, deux philosophes français qui nous ont quittés malheureusement, où sont donc les Aron et les Sartre qui, en 1979, avaient traversé la cour de l'Élysée pour demander au président de l'époque, Valéry Giscard d'Estaing, pour demander à Giscard d'Estaing d'accueillir les boat people? Où sont les concerts des artistes pour les enfants syriens? Où sont les collectes dans les écoles comme dans les années 80 pour l'Éthiopie? Et que dit la jeunesse face à la plus grande crise humanitaire depuis la Seconde Guerre mondiale? Alors, maudits soient nos yeux fermés. Ce qui nous fait défaut, ce ne sont pas les moyens, c'est la compassion. Je sais que les gens heureux, ni les autres d'ailleurs, n'aiment qu'on leur parle de choses tristes. La douleur des faibles se renforce de la faiblesse et de l'indifférence des nantis. Ainsi s'achève cet article. C'était donc une lettre ouverte que moi j'ai ressentie comme un cri, comme un appel à vous, à moi, et évidemment à tous ceux qui sont en position de décider. Cet homme, ce militant écologiste, fait ici preuve d'une démarche utile, courageuse. Je voulais le signaler au milieu de toute cette détresse humaine, comme il fallait évoquer aussi ces autres initiatives, ces petites municipalités qui se mobilisent avec leurs habitants, et comme ce seul bateau de veille en pleine mer Méditerranée, là aussi une initiative de la société civile. Alors, ce sont les héros discrets, invisibles même. Mais tout cela nous dit que dans les moments les plus sombres, il y a encore place pour de l'espoir. de la lumière, de l'humanité. Et peut-être, si nous avons encore 2 minutes pour conclure, Clotilde, et aider nos auditeurs et nos auditrices à bien comprendre la réaction de Nicolas Hulot, quelques chiffres pour repréciser tout cela. Prenons l'exemple d'abord du Canada. Nous y sommes. Eh bien, le Canada s'est engagé à contribuer en accueillant, au cours des 2 prochaines années, 25 000 réfugiés syriens. Et mettons les choses en perspective, pour la population du Canada, ça correspond à un peu plus de 7 réfugiés pour 10 000 habitants. Aux États-Unis, l'engagement porte sur 10 000 réfugiés. Et à nouveau, si je ramène ça à 10 000 habitants, c'est 0,3 réfugiés pour 10 000 habitants. Le Venezuela, en comparaison, 20 000 réfugiés sont déjà en partie accueillis et pour le reste attendus. La Norvège, 9 000. Petit État, mais le 9 000 accueillis correspond à 17 réfugiés par tranche de 10 000 personnes. L'Allemagne s'est engagée à 38 500, en plus des 153 000 Syriens qui vivent déjà là-bas. Et cela représente donc 4,75 réfugiés pour 10 000 habitants. Concluons avec la France, puisque cet article émane d'un quotidien français et porte donc sur ce cri de révolte d'un Français. La France est engagée timidement, difficilement et non sans cri à un peu moins de 3 000 réfugiés, accueillir 3 000 réfugiés en plus des 8 000 qui sont actuellement déjà installés en France. Cela correspond à 0,43 réfugiés pour 10 000 personnes. Alors voilà la situation, ma chère Clotilde.
Merci beaucoup, encore une fois, François. Vous savez qu'ici au Québec, il y a eu des gestes aussi qui ont été posés assez formidables, notamment dans la ville de Québec, dans la ville de Sherbrooke aussi. On a réparé des vélos pour les jeunes Syriens, là, les gens qui avaient des... Bon, je vous cite ça en exemple parce que je trouve ça sympathique, mais on a mis également à leur disposition des lieux qui étaient désaffectés depuis longtemps, qu'on a retapés, il y a eu aussi des choses formidables. Et je reviens là-dessus pour la troisième fois, mais comme un retour de balancier, des réfugiés syriens veulent aider les gens de Fort McMurray. Ils sont même prêts à leur donner les meubles qu'ils ont reçus en arrivant. Voilà.
C'est une très belle mobilisation, effectivement.
Merci beaucoup, François. À la semaine prochaine.
À très bientôt.